Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire dans Luc chapitre 4, où nous pouvons voir l'histoire où Jésus a été tenté par le diable, juste après avoir reçu le baptême par Jean. Si on divise la vie de Jésus en plusieurs parties, je dirais qu'il existe quatre étapes. Tout d'abord, la première partie concerne sa naissance et son enfance. Ensuite, je pourrais dire la deuxième partie, les épisodes où nous voyons Jésus se préparer avant de commencer son ministère. À ce moment-là, il avait reçu justement le baptême par Jean. Et ensuite, il est allé dans le désert et il a été tenté trois fois par le diable et il s'en est sorti vainqueur. Ça, c'est la deuxième étape que nous allons voir ce matin. Et ensuite, la troisième étape, bien sûr, c'est son ministère. L'exercice de son ministère jusqu'à la croix, qui pourrait être la troisième partie. Ensuite, la fin, la quatrième étape, je dirais, c'est la résurrection de Jésus-Christ, de sa vie passée durant 40 jours avec ses disciples jusqu'à son ascension. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter donc à regarder les tentations que Jésus a dû subir avant de commencer son ministère. Dans Luc, chapitre 4, verset 1, que j'aimerais vous lire, il est écrit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Donc, ici, on remarque qu'après avoir reçu le baptême de Jean, où justement il a été approuvé par le Seigneur, où nous voyons justement l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et ensuite, du ciel, on entend ce bruit, cette voix qui dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il sort de son baptême rempli de l'Esprit de Dieu. Juste une entre parenthèses, on pense souvent que si on se laisse diriger par le Saint-Esprit, on pense rester toujours près des eaux paisibles. Et on se dit que puisque Dieu est avec moi, puisque l'Esprit de Dieu est avec moi, il me protégerait. Mais ce n'est pas toujours le cas dans la vie. Ici aussi, Jésus est dirigé par le Saint-Esprit, mais dans le désert, pas dans un lieu paisible, pas dans un lieu de confort. Le désert est un lieu difficile, aride, un lieu d'épreuve, un lieu pénible même, où il y a des bêtes sauvages. Et puis, c'est là où il a jeûné 40 jours. C'est là où il a eu une communion avec son Père. Mais comme il était pleinement homme, cette condition de jeûne devait être quand même difficile pour lui. Après donc 40 jours de jeûne, le Satan vient pour tenter Jésus. Je vous laisse lire le texte de Luc, chapitre 4, chez vous. Je vais juste résumer les trois tentations. Tout d'abord, voilà, le Satan vient demander à Jésus de transformer la pierre en pain. Ça, c'est la première tentation après 40 jours de jeûne. Et ensuite, la deuxième tentation, le diable montre à Jésus toute sa puissance, toute la gloire de la terre, et il lui propose justement de les lui donner à condition que Jésus se prosterne. Ensuite, c'est la troisième tentation où on voit le diable conduire Jésus sur le haut du temple et il lui propose de jeter dans le vide, ainsi les anges viendraient le protéger. Voilà donc les trois tentations que le diable fait subir à Jésus. J'ai juste une remarque, si nous regardons les tentations dans les autres livres, vous savez que la deuxième et la troisième tentation sont inversées. Donc, il ne faut pas donner trop d'importance sur l'ordre des tentations. Et puis, une autre remarque, nous pouvons tous être tentés de différentes manières dans la vie. Et on pourrait dire que les trois tentations subies par Jésus résument un peu toutes les autres tentations qui existent dans le monde. Je reviens donc aux tentations. Voilà, tout d'abord, après 40 jours de jeûne, il est normal d'avoir faim et puisque Jésus était pleinement homme, il ressentait aussi le besoin de manger. Il ne devait pas être en bonne forme physique. Et c'est à ce moment-là que le Satan vient lui dire de transformer la pierre en pain. C'est à ce moment-là qu'il vient lui proposer de se prosterner devant le diable lui-même pour recevoir toute la puissance et la gloire qui existent sur la terre. Et puis, c'est à ce moment-là, dans les moments de faiblesse, que le diable vient demander à Jésus de se jeter dans le vide du haut du temple pour que le monde voie comment les anges viendraient le soutenir, le protégeraient, etc. Ces trois tentations ressemblent étrangement avec la description des trois convoitises décrites dans 1 Jean chapitre 2 verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. N'est-ce pas que ces trois convoitises ressemblent aux trois tentations du diable que Jésus subit dans Luc 4? On pourrait voir pas mal de similitudes, par exemple la convoitise de la chair de Jean correspondrait avec la demande de transformation de la pierre, de la pierre en pain. Ensuite, il y a la convoitise des yeux qui pourrait correspondre avec le diable qui montre à Jésus toute la puissance et la gloire de la terre et qu'il suffirait de se prosterner pour obtenir ces choses désirables. Et ensuite, il y a l'orgueil de la vie dans Jean qui pourrait correspondre avec la proposition de se jeter dans le vide pour que les anges le protègent devant tout le monde. Ainsi, Jésus recevrait l'acclamation de tout le monde. Voilà, c'est vrai que ces tentations sont tentantes, mais Jésus ne faillit pas. Et Jésus savait que toutes ces choses ne venaient pas du Père, mais du diable, le tentateur. Et ce tentateur est celui qui nous divise. Ce tentateur est le père du mensonge aussi. Voilà, donc un peu, réfléchissons un peu sur l'identité de ce Satan. C'est vrai, on vient de dire qu'il est un menteur, un trompeur, un diviseur. Mais savez-vous qu'il ne nous parle pas que des mensonges? Il utilise une part de vérité pour nous détourner de Dieu, pour nous conduire en erreur. Par exemple, imaginons une personne qui n'a pas de don en musique. Et un jour, il s'est dit qu'il voulait justement apprendre pour devenir un bon musicien. Et non seulement devenir un bon musicien, mais il veut devenir un musicien professionnel. Est-ce que vous l'encouragerez à le devenir? Si vous êtes quelqu'un de sensé, vous le découragerez, puisqu'il n'a même pas le sens de rythme. Il peut même pas chanter juste. Or, cette personne qui est convaincue qu'il pourrait devenir un musicien professionnel se base sur ce verset de la Bible qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Bien sûr, Dieu a toute la puissance pour transformer, mais il faut quand même être réaliste, n'est-ce pas? On peut utiliser un verset de la Bible et l'utiliser pour assouvir à notre désir personnel. Vous voyez un peu la différence? Le diable utilise une part de vérité, la Bible, pour nous conduire en erreur, pour nous aveugler la réalité des choses. C'est ça la stratégie du diable, utiliser une part de vérité pour tromper les gens. Pour tenter Jésus, le diable utilise la même méthode. Il lui dit de transformer la pierre en pain. Et à votre avis, est-ce que la demande de Satan était si mal que cela? Non. Parce que transformer une pierre en pain n'était pas foncièrement mauvais. D'ailleurs, il avait toute la puissance pour réaliser des miracles au-delà de ce que nous pensons. Il avait la capacité pour réaliser toutes sortes de miracles. Mais malheureusement, le péché n'était pas dans l'acte, mais dans la motivation. Le diable incitait Jésus à prendre un raccourci, à résoudre un problème urgent aux dépens de ses buts. Beaucoup de gens pêchent en essayant d'accomplir ses désirs légitimes sans se soucier de la volonté de Dieu ni de son heure. Demandons-nous d'abord si c'est le Saint-Esprit qui nous dirige ou c'est le diable qui essaye de nous égarer. La fin est très difficile à supporter. Demandez à vos grands-parents qui ont connu la guerre, vous verrez combien ils ont souffert de la faim. Manger est un besoin naturel de l'homme et souvent le diable attaque avec ce besoin naturel. Dans cette convoitise de la chair, on est tenté à commettre des péchés à cause de ce besoin naturel. Et suite à cela, on peut mentir, on peut tuer des gens, on peut écraser l'autre pour obtenir ce que mon cœur désire. Le diable intervient dans le moment le plus difficile, comme il a fait avec Jésus après ses 40 jours de jeûne. Ce Satan peut intervenir dans votre fragilité durant votre vie difficile. C'est pour cela qu'il faut veiller, car Satan n'est pas juste un symbole ou une idée, mais il est bien une créature réelle, un ange déchu. Il s'acharne constamment contre Dieu et aussi contre ceux qui suivent le Seigneur. Je souhaite vraiment que toute personne de notre Église, tout chrétien dans ce monde, puisse avoir la sagesse pour reconnaître les ruses du diable. J'aimerais maintenant vous lire le verset en question où le diable essaye de tenter Jésus. Chapitre 4, verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Voilà jusqu'ici notre lecture. J'aimerais juste faire une remarque textuelle. Est-ce que le diable doutait de l'identité du Christ? C'est pour ça qu'il dit « Si tu es fils de Dieu ?» Au fait, non, ce n'est pas ça. Le Satan connaissait très bien l'identité de Jésus. C'est juste une forme d'écriture en grec qui ne donne pas très bien en français traduit. Je m'explique. En grec, il y a deux sortes de conditionnels. Lorsque nous utilisons le mot « si » en grec, c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu vous montrer cela en écran avec les écritures, mais voilà. Juste en parler, ce n'est pas forcément très facile. En grec, il y a deux sortes de conditionnels. Il y a le conditionnel réel qui est dit en grec « ei », voilà, « ei ». Par exemple, si on dit « si Dieu nous aime, nous devons aimer en retour ». Dans cette phrase, « si Dieu nous aime » est une conditionnelle réelle, c'est-à-dire Dieu nous aime est la vérité. Dieu nous aime est une réalité. Autrement dit, puisque Dieu nous aime, nous devons aussi aimer en retour. C'est ça que veut dire cette phrase en grec. Mais on ne voit pas justement la différence entre ceci qui dit une conditionnelle réelle ou une conditionnelle éventuel. Par exemple, c'est quoi éventuel? En général, en grec, c'est écrit en EI, c'est-à-dire si, et on rajoute un petit AN qui fait que ça devient une conditionnelle éventuelle. Voilà, c'est difficile seulement en parler comme ça. Je donne un exemple. Je pourrais prendre l'exemple de la femme qui perdait le sang. Dans la Bible, il est écrit, dans Matthieu 9, 21, « Lorsque la femme touche le vêtement de Jésus, elle s'est dit ainsi, « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Ce n'est pas une réalité, mais c'est une conditionnelle éventuelle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore touché. Et donc, elle pourrait toucher ou elle pourrait ne pas toucher. C'est ça, une éventualité. Donc, quand le diable dit « si tu es fils de Dieu », c'est une conditionnelle réelle. C'est-à-dire qu'il sait très bien que Jésus est déjà le fils de Dieu. Donc, quand le diable dit « si tu es fils de Dieu », on pourrait même traduire « puisque tu es fils de Dieu ». puisque tu es le Fils de Dieu, donc change cette pierre en pain. Le diable connaît parfaitement l'identité de Jésus, qui est le Fils de Dieu, le Christ, le Messie, qui est venu sur terre pour sauver l'humanité. Et donc, il est en train de le tenter avec la capacité de Jésus. De même, il nous tente aussi souvent avec nos capacités, avec nos points forts. Imaginez votre point fort. Cela pourrait être le ménage, ou bien votre capacité d'intelligence. Vous pourriez être doué en musique, doué en sport, ou doué avec les chiffres. En tout cas, vous avez beaucoup de points forts par rapport aux autres. Mais si vous exigez la même chose aux autres, votre point fort pourrait être un sujet de dispute. Vous serez très déçu par les autres. Et les autres seront aussi déçus par notre rigidité, notre comportement. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Ainsi, le diable pourrait utiliser nos points forts pour diviser, pour nous tenter, pour nous éprouver, pour gâcher notre relation avec les autres. En tout cas, quand le diable demande à Jésus d'utiliser sa capacité, sa puissance pour se nourrir, Jésus savait très bien que ce n'était pas la volonté de Dieu. D'ailleurs, il lui répond, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Maintenant, voyons la convoitise des yeux. Je vous lis versets 6 et 7. « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jusqu'ici, notre lecture. Ici, le diable propose à Jésus de se prosterner devant lui. Et il suffit de faire ça pour avoir le monde, la puissance et la gloire de tous ces royaumes. Imaginez si cette proposition a été faite à n'importe quel d'entre nous. Qui refuserait à cette proposition alléchante? Le Satan promet de nous donner la puissance, la gloire. Qui refuserait dans ce monde à ce genre de proposition? Et d'ailleurs, si on réfléchit bien un peu, tout le monde recherche la puissance et la gloire. Tout le monde recherche la stabilité, la sécurité, le bien-être. Pour cela, on travaille dur, on fait tout pour réussir dans la vie. Pourquoi? Pour avoir cette puissance. C'est cela la convoitise des yeux. Le diable montre à Jésus cette puissance, cette gloire alléchante et séduisante d'ailleurs, pour que Jésus succombe à la tentation. Je connais un chrétien qui a succombé à ce genre de tentation. Est-ce que vous connaissez qui est cette personne? Suspense. Il ne faut pas imaginer les personnes qui sont autour de vous. Au fait, vous ne voyez pas qui c'est? C'est David, le roi David. Il est enfin devenu roi après avoir subi tellement d'épreuves par son prédécesseur, le roi Saül. Et le pays est stabilisé grâce à Dieu, et aussi grâce à David, qui a quand même été très obéissant à Dieu. Il a connu beaucoup de succès dans les batailles, mais après un certain temps donné, il a perdu sa motivation. Lui qui était tellement humble devant Dieu, obéissant, zélé pour mener des combats pour glorifier Dieu, après un certain moment donné, il laisse d'autres la poursuite des objectifs divins. Et il reste au palais au lieu d'aller au combat. Et un soir, il se lève de son lit et il se promène sur le toit du palais. Et là, il aperçoit une femme. Il voit, il regarde la convoitise des yeux. Il voit une femme se baigner. Cette femme était très belle. Et il perd la tête. Il cède à la tentation en se concentrant sur ses propres désirs. Il fait mûrir cette pensée qui est entrée à travers les yeux et il cultive cette pensée pour enfanter un péché volontaire. Ainsi, il tombe dans la spirale infernale du péché. Tout d'abord, en commettant l'adultère, ensuite, en commettant le meurtre de son mari. Je reviens à l'histoire de Jésus. pour cette tentation de se prosterner devant le Satan, Jésus lui répond avec la parole de Dieu. D'ailleurs, toute sa défense durant ces tentations dans le désert, il répond avec la parole de Deutéronome 6 à 8, qui existe, les paroles qui est dans le Deutéronome 6 à 8. Et le verset qu'il prononce est en fait le résumé de ces trois chapitres de Deutéronome. Je vous lis ce verset 8. Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Voilà la conclusion. De nos jours aussi, le diable nous tente avec la convoitise des yeux, en montrant le monde alléchante. Mais nous pouvons bien sûr sortir vainqueurs de toutes ces tentations. Pourquoi ? C'est facile. Il suffit juste de regarder la gloire de Dieu. Il suffit juste de fixer nos regards vers le Seigneur. Je souhaite vraiment que toutes les personnes qui écoutent ce message regardent sans cesse cette gloire de Dieu. Que nous fixions nos regards sur lui, sur sa gloire, pour faire disparaître cette convoitise des yeux. Oui, la solution est toute simple. Le fait de connaître la parole de Dieu, de lui obéir, suffit pour avoir cette arme efficace contre la tentation. Il s'agit d'ailleurs de la seule arme offensive dans l'armure du chrétien. Jésus cite l'Écriture pour répondre, en tout cas, aux attaques de Satan. Et nous le pouvons aussi, mais pour nous en servir efficacement, nous devons avoir foi dans les promesses de Dieu. Car Satan aussi connaît l'Écriture et il excelle à la tordre pour atteindre ses buts. C'est pour ça que nous avons besoin non seulement de connaître la Bible, la parole de Dieu, mais aussi bien discerner. Il faut lire quotidiennement, dans ce cas-là, la parole de Dieu. Nous devons bien sûr aussi mettre en pratique toutes ces paroles que nous lisons, pas juste que ça ne reste pas dans notre tête, mais dans notre cœur. Faisons attention à cette convoitise des yeux. D'ailleurs, dans Matthieu 6, 22, il est dit « La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. » Troisième tentation, voilà, c'est du haut du temple. Si Jésus était tombé du haut du temple, est-ce que les anges viendraient pour le prendre? Oui, je pense. C'est tout à fait possible que les anges viennent le sauver. Et d'ailleurs, même si les anges n'intervenaient pas, je crois qu'il était tout à fait aussi capable lui-même de se protéger. Souvenez-vous de Jésus qui marche sur l'eau. Il pouvait vraiment dépasser carrément la loi de la nature. D'ailleurs, en le tentant, il cite le psaume 91 qui dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Voilà donc, le Satan utilise la parole de Dieu pour nous tenter. Mais malheureusement, dans ces versets, le diable interprète mal l'Écriture. Le but du psaume 91 est de montrer la protection de l'Éternel pour ses enfants, non de les inciter à utiliser la puissance divine pour satisfaire ses désirs insensé. J'ai juste une remarque à faire. Si vous étiez à l'église, je vous aurais montré le temple en dessin pour que vous réalisiez où se trouvait justement le haut du temple. C'est un peu dommage. Peut-être à la prochaine fois. En tout cas, cette troisième tentation était liée avec l'orgueil de la vie. L'orgueil, la fierté, c'est à peu près pareil. Vous savez que le mot « la fierté » est le plus cité dans les livres de Corinthiens. À votre avis, pourquoi? Nous savons très bien que les Corinthiens vivaient dans une ville moderne, une ville branchée, très développée à l'époque. On pourrait même comparer, imaginons, Paris d'aujourd'hui ou Londres. Voilà, donc il y avait de quoi être fier de toutes ces splendeurs de la ville. et en étant en tout cas les Corinthiens. Et puis, les églises de Corinthe, dans ces églises de Corinthe, se manifestait pas mal de manifestations du Saint-Esprit. Donc, il y avait aussi une certaine fierté spirituelle. C'est pour ça que Paul dit sans cesse de ne pas mettre leur fierté dans ce monde, mais d'être fier de la croix, qu'il faut mettre sa fierté dans le Seigneur, non pas toutes ces choses que nous voyons. Paul a vraiment incité à s'humilier davantage. J'aimerais conclure. Pour cela, j'aimerais vous lire dans Genèse 3, 6, l'histoire de la tentation d'Adam. Tout d'abord, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Jusqu'ici notre lecture. Dans ce verset, il y a aussi les trois tentations de Jésus. La convoitise de la chair, bon à manger. La convoitise des yeux, elle vit, agréable à la vue. Et l'orgueil de la vie, ouvrir l'intelligence pour devenir comme Dieu. Voilà, devant ces tentations, le premier Adam a échoué. Mais notre deuxième Adam, Jésus-Christ, a bien vaincu ces tentations. Car il savait exactement pourquoi il était venu sur terre. C'est-à-dire pour mourir sur la croix, pour le pardon de tous. Christ devait réparer l'acte du premier Adam, qui, bien que créé parfait, a cédé à la tentation. Et il a transmis le péché à toute la race humaine, alors que Jésus, au contraire, a résisté à Satan. Sa victoire offre ainsi le salut à tous ses descendants. Nous avons aussi chacun une mission à accomplir. Vivre en tant que disciple du Christ, en tant que témoin fidèle de Dieu dans ce monde. Et nous avons vu que même si Jésus était sorti vainqueur de toutes ces tentations, le diable n'avait pas abandonné jusqu'au bout. Il a essayé de le déstabiliser, de le tenter plusieurs fois. Et c'est ce qu'il est aussi en train de faire avec nous. Trop souvent, nous n'attendons n'accordons pas assez d'importance à la tentation. En réalité, nous devons rester constamment sur nos gardes contre les attaques répétées de l'ennemi. En ce moment même, dans quel domaine êtes-vous le plus fragile? Comment vous préparez-vous à résister à la tentation? Ce sont des questions qu'on devrait se poser, qu'on devrait réfléchir même. C'est pour cela que nous devons fixer nos regards vers le Seigneur. Regardez sa gloire pour être vainqueur. Protégeons-nous en méditant les vérités inébranlables de la parole de Dieu, comme Jésus a fait. Nous devons citer aussi, il faut aussi connaître bien l'Écriture pour pouvoir répondre aux attaques de Satan. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde aussi sa pleine sagesse pour avancer, pour vaincre toutes ces tentations. Amen.